Vous écoutez un épisode de Fruits de la Passion réalisé par Mathilde Largeteau.
J'ai pas de passion, enfin je crois pas. J'aime bien plein de trucs. Je peux être fascinée par un sujet, une histoire pendant 2 semaines, vouloir tout savoir dessus, tout lire, tout découvrir, jusqu'à ce qu'un autre sujet pop devant mes yeux, tout aussi intéressant. Il y a plein de choses que j'adore, que j'aime beaucoup, mais j'en vois pas une qui me ferait oublier tout le reste. Bon, j'adore qu'on me raconte des histoires, mais c'est parce que chaque histoire est différente. J'ai l'impression que c'est un peu triché sur la réponse de passion. Ou alors, peut-être que je l'ai pas encore trouvée. Du coup, je me demande, comment on trouve sa passion ? Dans l'épisode d'aujourd'hui, Émilie nous raconte comment elle a découvert la sienne. Comment elle a trouvé son truc alors qu'elle ne l'avait jamais fait avant. Way Don't We Go de Kaleo est la chanson qu'elle a choisie pour ouvrir son épisode. Celle qui représente le mieux, pour elle, la période dont elle va nous parler. And we're down, we go, 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 go. And we're down, we go, 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 go. So we're down, we go, 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 go. We're down.
Je suis une trentenaire toulousaine, j'ai 2 enfants, je suis mariée. Je suis heureuse dans ma vie de famille, un peu débordée, hein, 2 enfants petits, forcément. Dans mon couple, tout va bien, j'ai pas mal d'amis. Moi, je suis toulousaine, mais d'origine, donc j'ai toujours vécu ici. J'habite dans le centre-ville, j'aime sortir, je suis quelqu'un de festif. Pas vraiment une femme d'intérieur, et j'aime lire. On est en train de déménager à ce moment-là, il y a des travaux dans tout mon appartement, il faut gérer les enfants parce que plus de douche, plus de salle de bain, on va les doucher à droite, à gauche, dans l'évier, tout ça. C'est la course. Je commence à faire un rêve la nuit. Je rêve d'une scène entre un homme et une femme qui se rencontrent. Mais c'est pas moi la femme. C'est comme si je voyais ça de l'extérieur, tout en étant présent. Et c'est assez particulier parce que j'ai l'impression de ressentir les émotions, aussi bien les siennes à lui que les siennes à elle. Et malgré tout, je suis pas partie prenante et je vois leur visage. Je peux pas dire que je les connais parce que je les connais pas, mais ce qu'ils ressentent, je le sens vraiment. C'est une attirance, en même temps ils sont assez effrayés. Je sais pas pourquoi, on sent que ça va pas être simple entre eux et pour autant, c'est quelque chose qui rend l'air autour un peu électrique. Et du coup, ben, je fais ce rêve une première nuit, je me réveille en me disant « Tiens, c'était assez perturbant, je me souviens vraiment de tous les détails, comme si c'était pas un rêve fait à un moment où on est dans le sommeil très très profond, comme si c'était quelque chose qui était encore tout frais. » À la limite même de se dire « Ça s'est passé, ça s'est pas passé, est-ce que je l'ai vu dans la journée ?» Et puis tu sais, des fois, t'as ce sentiment de déjà-vu quand tu vois une image. Ben là, c'est du déjà-vu, mais qui revient la nuit d'après, qui revient la nuit encore après, qui revient encore, et ça dure pendant 1 mois. Donc déjà, je suis crevée parce qu'à chaque fois que je me réveille, je réfléchis en me disant « Mais pourquoi tu rêves de ça ? Est-ce que tu n'aurais pas rencontré quelqu'un qui ressemble à truc ?» Et puis bon, comme je crois beaucoup aux signes, je me dis « Est-ce que ça a essayé de te faire passer un message ? Si ça se trouve, tu n'es pas si heureuse dans ton couple, tu cherches à rencontrer quelqu'un, tout ça ?» Et puis en fait, non, pas du tout. Et un matin, je pars travailler. Je discute avec une de mes collègues de travail qui est plus âgée que moi et qui a des soucis avec sa fille ado. Et qui me dit, ben, en fait, on n'arrête pas de s'écharper, on n'arrête pas de s'engueuler. Tous les jours, dès que j'arrive, elle me reproche 1 million de trucs. Moi, dès qu'elle rentre, eh ben, j'ai fait l'état des lieux de tout ce qu'elle n'avait pas fait, donc je lui reproche aussi. Enfin, le cercle vicieux, quoi. Et en fait, elles sont allées voir une psy, toutes les deux. Et elles me racontent, à la machine à café ce matin-là, que la psy leur a dit, ben, au lieu de vous écharper la gueule à l'année, vous prenez chacun un crayon et un papier, vous écrivez tout ce que vous vous reprochez, vous le dites, vous vous engueulez, vous le brûlez, vous le bouffez, faites ce que vous voulez, mais au moins, c'est sorti de vous, quoi. Et donc, elle me dit, ben, écoute, on a passé la soirée à faire ça. Et au final, moi, je pleurais, elle pleurait aussi. Donc, elle m'explique que ça avait été un truc qui leur avait fait vachement de bien. Et donc, je rentre chez moi en me disant, faut que j'essaye de l'exorciser. Et une chose en entraînant une autre, j'ai pas été capable d'écrire juste ce qui s'était passé. Je suis partie du début en me disant, mais pour qu'ils arrivent à ce moment-là, il faut qu'elle, elle ait eu telle vie, elle ressemble à ça. Donc, j'ai commencé à la décrire, lui aussi. Mais j'ai créé carrément des gens autour. Je leur ai créé un passé, des traits de caractère, une histoire. Et en fait, je me suis laissée prendre au jeu et je me suis fait avoir, quoi. Et du coup, c'est le premier roman que j'ai écrit. Cet homme, je l'ai baptisé Tristan et cette femme, Garance. Je l'ai écrit en 2 mois. C'est un pavé, il fait 800 pages, quoi. C'est un truc énorme. Et du coup, quand je suis arrivée à la fin, Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce que je me sentais pas écrivaine, je me sentais pas... Et là, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai mis déjà beaucoup de temps avant d'en discuter avec les gens qui avaient autour de moi. Me dire, est-ce que je leur avoue que j'ai écrit? Est-ce que je l'avoue pas? Mon mari le savait, mais c'était le seul. Un soir, avec des amis, j'ai commencé à leur raconter ce que j'avais fait. Plusieurs personnes m'ont dit, fais-nous lire. Donc, ça a été compliqué parce que la première fois que tu fais lire ton travail, il y avait beaucoup de répétitions, il devait y avoir des fautes à l'intérieur. J'étais vraiment pas tranquille. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, si j'ai jamais le courage de le faire lire à qui que ce soit, je l'aurais fait pourquoi? Pour moi? Parce que par contre, ça a été très efficace. J'ai fini de l'écrire, j'ai fini de rêver d'eux. Ça a été terminé. Donc, je me suis dit, ben là, il faut faire un choix. Et comme je suis du genre à tester, à aller un petit peu au bout des choses, je me suis dit, bon, mais ok, je le fais lire. Et en même temps que je l'ai donné à mes amis, je l'ai envoyé à une dizaine de maisons d'édition. C'est-à-dire que je me suis dit, ben, tant qu'à faire, autant avoir l'avis de professionnels, parce que les autres, je les aime beaucoup, mais je m'en fous, en fait, de leur avis, quoi. Et puis, ils sont pas critiques littéraires. J'ai reçu des retours qui étaient positifs de deux maisons d'édition, dont une plutôt grosse. Sauf que, en fait, comme c'était mon premier roman, ils voulaient que je change beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'effectivement, il y avait des trucs à changer, quoi. Et même aujourd'hui, sur la version que j'ai gardée, il y a des choses qui, quand je le relis, je me dis, j'aurais pu faire mieux, quoi. Mais j'y tenais tellement, en fait, j'ai refusé pas mal de ces propositions. Et du coup, ben, j'ai pas pu le sortir avec une maison d'édition. Je l'ai gardé et je l'ai sorti moi-même en auto-édition. Ce qui fait qu'il est certainement moins parfait que ce qu'il aurait pu être s'il était passé entre les mains de 12 correcteurs. Mais pour moi, il est exactement comme il devait être au moment où je l'ai écrit. Et du coup, c'était super important. Des livres que j'ai écrits depuis lors, c'est celui que j'ai le plus vendu. Je sais pas l'expliquer, je comprends pas, parce qu'aujourd'hui, il est sorti en auto-édition en décembre 2017. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est encore celui que je vends le plus. Alors que c'est un vieux livre, en fait, 2 ans. Il devrait être un peu oublié, et les derniers que j'ai sortis devraient mieux marcher. Mais c'est pas le cas. Ça, par contre, c'est quelque chose que je ne sais pas expliquer. Je me suis sentie tellement bien une fois que c'était fini, une fois que c'était lâché. Les critiques, elles étaient positives, certaines étaient négatives. Je pars du postulat qu'à partir du moment où elles sont faites sur les réseaux sociaux, ça fait de la pub. Bonne ou mauvaise, c'est de la pub. Donc moi, je prends. Comme je ne suis pas quelqu'un de susceptible, en plus, c'est parfait. Mais pour le coup, elles sont plutôt bonnes. Et puis si j'ai autant de lecteurs, c'est que c'est quand même, l'histoire est chouette. Et puis ben, du coup, je me suis dit, ben, je vais continuer. On va voir ce que ça donne. Et il y avait une maison d'édition, une petite maison d'édition que je suivais un peu sur les réseaux sociaux, qui a fait un appel à texte sur la luxure, romance toujours. Et en fait, en discutant pareil avec les mêmes copines, je leur ai dit, mais moi, j'ai envie d'essayer. Alors on était 4 ou 5 à dire, ben, ouais, moi aussi, je vais essayer, moi aussi, je vais essayer, moi aussi. Et on s'est retrouvés, quoi, 15 jours après. On a discuté de l'avancement de chacune. Il y en avait une qui avait acheté, je me souviens, un joli cahier avec des jolis crayons pour écrire. Elle n'avait pas écrit 3 lignes. Une autre qui me disait, mais moi, j'écris, j'efface sur l'ordinateur, tout ça. Et moi, j'avais écrit la moitié du roman déjà. Ben, je l'ai terminé, je l'ai envoyé et j'ai gagné. Il n'y avait pas vraiment de fin à ce roman, donc on m'a demandé une suite. J'ai fait 3 tomes que j'ai sortis dans cette maison d'édition. Et voilà, c'était chouette. J'avais le sentiment, moi, quand j'écrivais, que c'était facile. Tu sais, c'est pas comme un truc que tu vas essayer de peindre et quand tu sais pas peindre, ben, tu y arrives pas, tu reprends. Et à chaque fois que tu regardes le modèle de départ, tu te dis, c'est un peu moche ce que je fais, mais si je travaille, je vais y arriver. Moi, voilà, c'est pas ça qui s'est passé, en fait. J'écris. Et quand je me relis, ben, je jette pas grand-chose, en fait. Tous les gens qui m'ont lu, que je ne connaisse pas ou que je connaisse, m'ont dit, en fait, on comprend parfaitement, c'est très cohérent, on voit les détails, tu nous embarques. Du coup, je pense que c'est quelque chose que je, sans le savoir, je savais faire. Ben, j'ai envoyé le roman à une maison d'édition qui l'a pris. Et le suivant, pareil. Et j'en ai écrit un qui a été pris nulle part encore. Et du coup, je l'ai sorti moi-même. Ça peut arriver aussi. Mais je pense qu'en fait, chaque livre a besoin de trouver son lectorat et a besoin de trouver le moyen d'atteindre ce lectorat. Parfois, c'est telle maison d'édition qui est spécialisée dans le fantastique. Parfois, ça va être ben, l'auteur tout seul qui a déjà une idée dans sa tête de comment je veux amorcer ma communication là-dessus, comment je veux faire. Et puis, au départ, je n'étais pas du tout connue. Et maintenant, dans le milieu de la romance, ben, si on donne mon nom, il y a beaucoup de lectrices qui savent à peu près qui je suis. Donc forcément, c'est plus facile en fait, d'assumer le fait que je veux le sortir moi-même ou que je vais le signer avec un tel ou un tel. Le premier, je l'ai sorti en décembre 2017, mais entre le moment où j'ai fini de l'écrire et le moment où je l'ai sorti, il s'est passé un an. Et pendant cette année-là, j'avais signé avec la maison d'édition sur laquelle j'avais gagné le concours. J'ai mis du temps à le retravailler avant de l'envoyer. Comme j'avais déjà sorti ces tomes-là qui avaient bien marché avec la maison d'édition, je me suis appuyée sur mon lectorat parce que j'avais créé des pages auteurs sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Insta, sur Facebook, tout ça. Et donc, avec tous les gens qui me suivaient, j'ai relayé, j'ai fait appel à une amie à moi qui est graphiste pour me faire la couverture parce que la couverture, du coup, ça compte beaucoup. Et puis, je voulais vraiment miser là-dessus pour le premier que je sortais toute seule. Et ça, pour le coup, ça a marché. Pour le pseudo, évidemment, au départ, quand on commence à écrire de la romance avec une étiquette érotique, c'est une sous-catégorie de romance. C'était pas forcément évident à assumer. Je me disais, mais comment je vais faire? À qui je vais en parler? Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux pas? Du coup, en fait, j'ai mixé les noms de tous les gens qui comptent pour moi. Le nom de mes enfants, le nom de mon mari, et il en est sorti un nom et un prénom. Et donc, c'est ça mon nom d'auteur. C'est pour ça que j'y tiens beaucoup, d'ailleurs. Récemment, j'ai signé avec une maison d'édition qui m'a demandé de changer de nom, ce que j'ai refusé. Bon, ils ont été d'accord, donc ils m'ont pris tel que je suis. Enfin, c'est une véritable identité pour moi aujourd'hui. Parce qu'à chaque fois que je prononce les noms de mes enfants. Voilà. Au départ, c'était un peu pour me cacher, en fait, derrière un pseudo. Aujourd'hui, plus du tout. Parce qu'en fait, je suis capable de parler comme je te parle à toi, là, avec n'importe qui. Les gens avec qui je travaille aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je raconte à tout le monde. La nana qui écrit du cul, en gros, si tu veux, elle est pas trop sérieuse, sauf que si, en fait. Mais par contre, si quelqu'un a des questions à me poser ou quelqu'un qui me retrouve, parce que je fais beaucoup de salons, je me déplace, donc je fais des dédicaces et les gens, ils me mettent des photos, les lectrices, elles aiment bien se prendre en photo avec nous. Si tu me googlises ma tête, tu vas trouver qui je suis et ce que je fais. Et c'est pas un problème. Ça l'est plus du tout. Il faut savoir que quand on signe dans une maison d'édition, c'est eux qui ont le choix de la couverture. On peut donner notre avis en disant « Non, mais là, vraiment, j'aime pas du tout, j'aime bien ça. » Mais signer dans une maison d'édition spécialisée en romance avec un livre qui parle de romance érotique et des scènes explicites en lui disant « Je veux pas de mec torse nu sur la couverture », ça va être compliqué à négocier. Ça va être très, très compliqué à négocier. Il y a des gens qui ont réussi à négocier sur un visage, un couple qui s'embrasse, ce genre de choses. Mais malgré tout, sur le deuxième bouquin qu'elle sort, il va y avoir un torse nu. Parce que ça fait partie de... Alors, ils appellent ça leur charte graphique. Ça fait partie du jeu. La première de mes couves, c'était un torse d'homme. J'ai eu du mal à le digérer, quoi. Ça a été un peu compliqué. Je me disais, mais ça va jamais passer dans un magasin, ça. Et en fin de compte, ça a vachement plu. Et du coup, comme ça plaît au lectorat, j'écoute ce qu'elles disent. Ah, mais t'as vu, ce mec-là, il est canon. Au bout d'un moment, mais je sais, en fait, ce qui va marcher, ce qui marche pas. Après, il y a des bouquins qui ont des couvertures toutes pourries et qui cartonnent. Et d'autres qui ont des super couvertures. Et après, si dedans, ça leur plaît pas, ça plaît pas, quoi. Mais grosso modo, un couple, un mec torse nu, oui, ça fait vendre. Bien sûr, ça marche. Moi, en tant que lectrice, je fonctionne beaucoup au visuel. Mais c'est pas forcément parce que le mec, il a des gros abdos que je vais adorer la couve. Je vais aimer parce qu'il va y avoir des couleurs. Parce que maintenant, j'ai appris à travailler pas mal de choses aussi. Donc, je regarde un peu comment c'est fait dans sa globalité. Mon premier roman, donc dans la fameuse maison d'édition là où j'avais gagné le concours, il devait sortir le 14 février et je l'ai su juste avant Noël. Donc en fait, à Noël, je leur ai dit « ting 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 » contre la coupe de champagne, j'ai un truc à vous dire, voilà, j'ai écrit un roman, il va sortir bientôt, je vous préviens, c'est pas à mettre entre toutes les mains, hein. J'ai gagné un concours sur la Luxure. Déjà, je le trouvais très très chaud le roman et on m'a fait rajouter des scènes de sexe. Donc, autant te dire que là, il y en a vraiment beaucoup, quoi. Ma mère, elle m'a dit, bon, je vais voir, je vais lire. Et puis finalement, elle adore. Elle aime beaucoup, donc elle me lit systématiquement à chaque fois que je sors un livre. Mon père m'a encore demandé il n'y a pas longtemps, tu veux pas écrire un truc normal? Ce à quoi j'ai dit, mais c'est normal en fait, c'est juste que ça n'est pas pour toi. Mon frère, pareil, il achète tous mes livres, il n'en a jamais lu aucun. Il me dit, je peux pas les lire, je peux pas te lire, mais je soutiens. Je suis très fière, mais voilà, ça va s'arrêter là. Mon mari est très fier, il en rit beaucoup. Il raconte à tout le monde que toutes les scènes de sexe sont inspirées de notre vie, hein, évidemment. Il a choisi de prendre ça avec humour et c'est plutôt cool. Donc, globalement, je me sens soutenue en fait. Moi, ma méthode, c'est de ne pas avoir de méthode. C'est-à-dire, je pars en me disant, bon, allez, attends, il te faut un prénom féminin, t'aimerais que ça se passe où, il faut que ça colle un peu, voilà, hop. Après, il te faut un prénom masculin, ok, et donc maintenant, tu les fais rencontrer comment, c'est qui ces gens, ils vont où, et ben, je commence en fait avec un prologue sur une scène, un endroit, un truc, et après, je déroule le tout du long. Quand j'arrive aux deux tiers, je suis obligée de finir en tramant un petit peu le truc, parce que sinon, je finis jamais. c'est rythmé quand même. Il faut un gros rebondissement avant la fin, il en faut un autre avant, sinon tu perds tout le monde. Il faut donner quand même un minimum de rythme. Mais moi, je sais pas dire chapitre 1, je vais décrire ça, chapitre 2, chapitre 3. Et alors en plus, ça me gonfle parce que je trouve, moi, ce que je trouve dans l'écriture, c'est un sentiment de liberté absolue. C'est-à-dire que c'est le seul endroit de ma vie où si j'ai envie de parler mal, je parle mal. Si j'ai envie de n'importe quoi qui me fasse envie, je peux le faire. Je me suis même essayée récemment à écrire une romance fantastique. Alors là, c'est encore plus kiffant parce que là, du coup, il n'y a même plus les codes du monde dans lequel on vit. On peut tout inventer. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut une grosse feuille de route, là, par contre, parce que si tu dis que le mec, il vole, tu ne peux pas dire qu'en fait, au final, il ne s'est pas volé. Enfin, là, il faut se souvenir vraiment de tout ce que tu mets. Mais tu es complètement libre. Donc, aller me coller une trame, une méthode, un truc, eh ben, pour moi, c'est l'inverse de ce que je cherche dans l'écriture. Donc ça, je ne le fais pas. Pour écrire, j'ai pas de rituel particulier. Je suis capable d'écrire n'importe où. Je sors jamais de chez moi sans... Au départ, c'était mon ordinateur. Maintenant, j'ai carrément un clavier Bluetooth que je peux relier sur mon téléphone, qui est encore plus petit, donc ça prend encore moins de place. Je peux écrire n'importe où. Il suffit que j'ai un quart d'heure devant moi. Je le sors et hop, je me mets à écrire. Je suis influencée, effectivement, par tout ce qui se passe autour. Je suis pas vraiment coupée. Tu es en train d'écrire, tu m'appelles. Si je réponds et que tu me racontes une histoire drôle, tiens, je peux hop, basculer et l'intégrer ou intégrer une partie. J'écris jamais sur les gens que j'aime et que je connais, par contre. Mais s'ils me racontent quelque chose ou s'ils ont un trait de caractère particulier, je peux coller un tout petit peu d'eux sur un de mes personnages. Mais dans l'absolu, vraiment, j'invente, quoi. J'invente tout. C'est une envie. Et un besoin aussi, parce que maintenant, je me colle moi-même des contraintes. Je me dis, bon là, ça fait 3 semaines, t'as pas fini ton roman, parce que j'écris vite. Hein. Donc du coup, je suis capable d'écrire un roman en un mois. Et je me dis, bon, mais tu l'as toujours pas sorti parce que tu traînes, parce que tu t'es mis à regarder cette série sur Netflix, parce que ça fait 3 week-ends que ben, tu sors, tu fais machin, tu fais truc. Et là, au bout d'un moment, je me dis, bon, là, maintenant, il faut que tu t'y mettes. Mais c'est surtout, surtout une envie. Et si je sais que mon mari sort avec ses copains un soir, je couche les enfants, et là, je sais que j'ai toute ma soirée rien que pour écrire, mais c'est une fête pour moi. Je suis trop contente. Je m'installe et allez, c'est parti. Aujourd'hui, là, je suis en train de commencer le 14e. Je ne travaille jamais pour rien. J'écris pas pour laisser dans un coin et laisser traîner. Je commence, je finis. Je finis, je fais quelque chose avec. Je n'en ai qu'un que j'ai laissé de côté. Et j'appelle ça le roman fourre-tout. C'est-à-dire que si je cherche une scène de sexe que j'ai pas envie d'écrire, comme j'en avais foutu une 20aine dedans, je peux aller les chercher. Mais au final, je m'en sers même pas parce que je trouve que c'est nul. Ce que j'ai... Il était nul du début à la fin, ce roman. Donc du coup, j'en ai rien fait. C'est le seul. Et j'essaye maintenant de ne plus faire plusieurs projets en même temps. Parce que ça, c'est à devenir fou. J'ai passé un moment où j'en avais 4 en cours. Donc un coup, j'écrivais sur celui-là, un coup, j'écrivais sur l'autre, un coup, je gérais les corrections avec ma maison d'édition. Parce que là, c'est compliqué ça aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils nous disent « bon, mais ok, je te le prends », moi, je suis déjà passée sur un autre. Limite, j'en ai un d'avance. Et donc, au bout d'un moment, on me dit « bon, mais telle correctrice va prendre contact avec toi ». Et donc, il faut se replonger dans l'histoire, il faut rajouter. Parce qu'en fait, les correcteurs dans une maison d'édition, ils corrigent en fait dans la marge. Ils nous disent « ben, rajoute des sentiments, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il pense, où il va, c'est sûr que ça, c'est plausible. Rajoute la description, enlève ceci, enlève cela, ça, c'est pas normal ». Et donc, tout ça, il faut tout reprendre, reprendre. Et après, il y a une relecture finale parce qu'il y a d'autres correcteurs qui passent derrière. Et ça, ça coupe en fait le travail qui est en cours sur autre chose. Mais ça fait partie du boulot. Que j'écrive une description de paysage ou une scène de sexe, ça me fait exactement le même effet à moi. Par contre, quand je me relis, des fois, je me dis « ah ouais, c'est chaud quand même là ». Voilà, ça oui. Mais au moment où je l'écris, je ne suis pas dans le sentiment. Je suis dans le fait où j'ai besoin de dérouler l'action comme moi, je la vois. Comme je la ressens. Donc, je vais mettre les mots du truc qui rentre dans le machin, du machin qui truc. Et je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas dans l'émotion que tu peux avoir quand tu me lis. Par contre, si je me relis, ben, je ressens la même chose que toi. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est considéré comme la dark romance. Déjà, j'ai du mal à le lire. Tout ce qui est scène de séquestration, viol, ce genre de trucs. Ça, j'ai du mal à lire. Du coup, ben, moi, j'écris ce que j'aime lire. Donc ça, je peux pas l'écrire. C'est vraiment un problème. J'avais fait une collaboration sur un roman que j'ai sorti qui était une dark avec une autre auteure. Et toutes les scènes qui étaient compliquées, c'était elle qui les écrivait parce qu'elle aime bien la dark. Et moi, j'écrivais plus les scènes de sexe parce que c'était beaucoup plus naturel pour moi. Après, j'aimerais bien me lancer dans un thriller. Il me faudrait plus de temps, en fait. La romance, c'est facile. Et c'est ce que j'aime lire et c'est ce que j'aime faire. Dark romance, c'est de la romance avec des traumatismes, beaucoup de la violence. Alors, je connais même pas toutes les catégories. Il y a du beat-lit, partie de fantastique à l'intérieur, les loups, les vampires, ce genre de trucs. Il y a du young adult, où là, c'est vraiment pour des ados. Ça, j'ai essayé d'écrire une romance ado où il n'y a pas de scène explicite dedans. Et bon, il faudrait reprendre vraiment toutes ces terminologies-là de sous-genre parce que je ne les connais pas toutes, en fait. En général, c'est plus les lectrices qui nous classent dans des catégories que nous, les auteurs. Il y a des romances MM, FF. Alors, MM, c'est homo-homme. FF, homo-femme. Il y a un vrai lectorat. Moi, j'ai des auteurs que je connais bien qui cartonnent là-dessus. Beaucoup de romances comme moi je fais, en fait, de la romance érotique. Après, t'as des romances plus science-fiction, où là, c'est plus la science-fiction qui prend le pas sur la romance. Je sais pas qui me lit en numérique derrière son ordinateur systématiquement, mais je sais les lectrices et les lecteurs que je vois qui viennent en salon. Et ceux-là, c'est vraiment les lecteurs qui déjà nous connaissent parce que souvent ils ont lu les livres en numérique et qui viennent acheter le livre papier avec une dédicace parce qu'ils adorent, en fait. Et ça, c'est essentiellement des femmes. Je dirais entre... Alors, on a des jeunes, hein, 18-20 ans, jusqu'à 50 ans, 55 ans. Il faut savoir que en romance, en fait, moi, j'ai à peu près 90% de mes ventes, c'est du numérique. Parce que la mère de famille, quand elle est chez elle le soir, elle a envie d'un bouquin, elle le prend sur sa tablette, elle n'a pas besoin de sortir, elle n'a pas besoin d'aller faire la queue à la FNAC. Et du coup, elle a ce qu'elle veut, personne ne va la juger sur la photo qu'il y a sur la couve. Dans les transports en commun ou une tablette, personne ne le voit. La romance garde quand même une image, c'est pas vraiment de la littérature. Au final, c'est quand même le genre de littérature qui vend presque autant que les polars. Hein. Donc ça marche très très bien. Mais c'est moins assumé. Souvent par les lecteurs. Moi, j'ai beaucoup de lectrices qui viennent me voir en salon, qui prennent en photo la couve en me disant « Bon, mais je l'achèterai sur ma tablette, comme ça, personne ne le verra. » Ça touche à la sexualité, et la sexualité reste encore dans notre société aujourd'hui un tabou. Alors que concrètement, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi. J'ai aussi de facilité à parler de sexe qu'à parler de politique. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Mine de rien, ces lectrices-là, elles interagissent énormément sur les réseaux sociaux et souvent c'est avec leur propre nom. Donc je pense qu'elles se cachent pas forcément de la lecture qu'elles font, mais je pense que c'est la lecture coup de cœur, de la lecture à l'envie du moment. Je sais qu'elles attendent beaucoup des sorties, par exemple. Là, je mets un extrait du roman que je viens de terminer, je le balance comme ça, et les nanas me disent « Mais quand est-ce qu'il sort ? Quand est-ce qu'il sort ?» Celui-là, le jour où il sort, je sais qu'elles vont attendre ça, et en numérique, à minuit, elles vont le précommander, à minuit, il va tomber sur leur tablette, à minuit 3, elles le commencent. Après, ça reste un milieu artistique. C'est-à-dire que tout ce qui est les lecteurs, elles sont très bienveillantes, elles sont super, elles viennent en salon, elles nous amènent des cadeaux, enfin, les lectrices, elles sont vraiment géniales. Par contre, après, dans le milieu des auteurs, même si c'est de l'écrit, on a l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu cadré, tout ça. Pas du tout, c'est un milieu artistique avec toutes les personnalités qui peuvent se dégager autour de ces milieux-là. Donc, ça reste un milieu particulier, avec des codes particuliers qu'il faut maîtriser ou dont il faut se tenir assez loin. Mais oui, c'est chouette, ouais. Sur les salons, souvent, on se retrouve, on se regarde de coin, et puis on discute. Moi, je suis quelqu'un d'assez affable, donc je peux discuter avec tout le monde. Après, il y a certaines personnalités où là, clairement, j'y vais pas trop, quoi. Mais sinon, oui, je me suis fait des amis dans le milieu littéraire avec qui je discute virtuellement et parfois de visu, parce que sur Toulouse, on est beaucoup d'auteurs de romances. Le souvenir le plus haut en termes d'émotions positives que j'ai eues, c'est quand j'ai fait le Salon du Livre de Paris en tant qu'auteur, en 2017, justement. C'était la première fois que j'allais au Salon du Livre de Paris. C'est très, très impressionnant, en fait, quand on entre. Ces allées avec ce gros tapis rouge un peu partout, énormément de monde. C'était un samedi après-midi. Je dédicaçais de 14h à 18h avec une espèce de trouille monumentale de me dire si personne vient, c'est la honte de ma vie. Quand je suis arrivée devant le stand de ma maison d'édition, je me suis présentée parce qu'on se connaissait, mais que virtuellement. Et il y avait des lectrices qui attendaient. Et elles faisaient la queue devant une petite table, et en fait, elles étaient là pour moi. C'était vraiment grisant, et en même temps, je me sentais pas légitime, en fait, de vivre tout ça. En plus, ma maison d'édition, ils avaient joué le jeu à fond, ils avaient fait venir un mannequin homme qui donnait une rose à chaque fois qu'une nana achetait un livre, et donc, du coup, moi, je dédicaçais, elles achetaient le livre, et lui, il leur faisait la bise et leur donnait une rose. Le pauvre garçon, il était encore plus mal à l'aise que moi, mais il jouait le jeu super bien. Et du coup, bon, au final, on avait bien rigolé, c'était une chouette après-midi. J'étais tellement impressionnée par tous ces auteurs auteurs de renom qu'il y avait dans le salon, que je me disais, je vais être ridicule. Et en fin de compte, ça s'était vachement bien passé. J'ai eu des retours qui étaient très positifs. Et ça, c'était vraiment une très, très bonne expérience. La moins bonne, il n'y en a pas. J'ai eu des moments où j'ai été déçue par certaines maisons d'édition, par certains auteurs avec qui je pensais que je m'entendais bien et finalement non. Mais c'est ni plus ni moins ce que dans la vie, c'est comme comment tu fais pour apporter toujours du renouveau sur des histoires d'amour entre un homme et une nana qui, finalement, si on y regarde vite, on dit ben, tout se ressemble, mais c'est exactement comme ce qu'on vit aujourd'hui. Ton métier n'est pas si différent du mien, ton histoire d'amour n'est pas si différente de la mienne. Il y a des gens bien, il y a des gens moins bien, il y a des moments chouettes et des moments moins chouettes. Moi, je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu tous les bons moments et tous les mauvais. Et du coup, ben, je regrette rien et je garde pas le négatif en mémoire. En tout cas, pour l'instant, j'ai rien eu de très très marquant à ce niveau-là. Ce qui n'est pas le cas de tous les auteurs. J'ai vu des auteurs se faire descendre parce que les réseaux sociaux, les gens sont cachés derrière un ordinateur, donc il y a des côtés positifs parce que ça permet de faire de la publicité gratuitement, mais il y a des côtés négatifs, des déchaînements de haine, de violence, qui sont parfois justifiés, parfois pas. Quand on en fait les frais, c'est compliqué. C'est pas mon cas jusqu'à présent, donc ça va. Si. J'ai déjà eu, trois retours qui sont à ce point négatifs que t'as l'impression que la lectrice, elle te déteste. Mais elle te déteste, toi, en tant que personne. Tu te dis, mais j'espère qu'elle sait pas où j'habite, quoi. C'est même plus un commentaire lecture où la nana, elle se dit, ça me tient à cœur de donner mon avis sur le roman, donc je vais dire que j'ai pas aimé pour telle ou telle raison. Non, la nana, elle fait deux pages de commentaires où elle spoile tout le livre, où elle raconte tout et où elle critique tout. Et on se dit, mais pourquoi faire ça. Quand on gratte un peu et qu'on cherche l'identité de cette personne, en général, c'est des gens qui sont pro une autre maison d'édition qui est concurrence ou pro un auteur qui nous aime pas ou que... Ça, c'est jamais très, très justifié. Du coup, c'est pas vraiment crédible et je pense qu'en plus, personne ne lit leurs commentaires. Donc, je m'en fous un peu. Je trouve ça plus décevant quand j'ai discuté avec une lectrice sur un salon qui me dit « Vas-y, décris-moi ce livre. » Je lui dis que derrière, elle revient me disant « Bon, ben moi, celui-là, ça l'a pas fait. » Parce que là, je me dis « Ben, je l'ai peut-être mal conseillé. C'est peut-être un autre qui lui aurait plus plu. » Ça me peine un peu. Pas pour mon livre, pas pour mon travail, mais plus pour elle. Parce que mine de rien, un lecteur qui achète notre livre, eh ben, il mise sur nous, il met son argent. J'ai envie qu'il soit satisfait, quoi. Comme tout le monde, j'imagine. Aujourd'hui, je travaille encore sur un boulot que je qualifierais de alimentaire et j'écris ben, en plus de ce boulot-là. C'est un sujet de réflexion, de se dire, est-ce que je plaque tout et je me mets à temps plein sur l'écriture? Est-ce que si j'ai besoin de ça pour vivre, je vais écrire la même chose? Je sais pas. J'ai pas franchi le cap encore à l'heure actuelle. En termes de rémunération, je suis assez contente de ce que me rapportent mes livres. Je considère aujourd'hui que c'est un plus, que c'est une chance. Et du coup, je suis pas sûre aujourd'hui d'être capable de tout plaquer pour dire ben, je fais ça à temps plein. Parce que j'aurais autant peur que ça marche pas que de me dire eh ben, je suis obligée de faire en sorte que ça marche. Et je crois que c'est quelque chose que je fais pour moi en fait, et uniquement pour moi. Alors bien sûr, je suis contente que ça plaise à mon lectorat, mais vraiment l'écriture c'est quelque chose d'assez égoïste. Si je suis obligée d'écrire sur commande parce que j'en ai besoin pour bouffer, quelque part j'aurais dénaturé ma passion et ce serait pire que de me dire eh ben écoute non t'écris pas la journée t'écris que le soir quoi. Voilà, même si effectivement dans un monde parfait j'aimerais écrire toute la journée. Alors moi je me dirais à moi ce que je dirais à n'importe qui veut se lancer et qui sait pas. Essaye. De toute façon, tu peux pas... Moi, j'ai discuté là récemment avec des jeunes auteurs là, qui viennent à peine de commencer à lire et qui disent « Ah ouais, mais moi, je sais pas si mon travail, ça va plaire. » Mais en fait, tu peux pas être prophète dans ton pays. C'est pas toi qui va juger ton travail. Fais ce que tu as envie de faire et donne-le à des professionnels qui vont te donner leur avis. Soit c'est bon, soit c'est pas bon. Mais dans tous les cas, si tu aimes bien faire ce que tu fais, tu vas le faire. Moi, je regrette pas de l'avoir fait. Et je pense que si ça avait vraiment pas plu, eh ben, peut-être que j'aurais transformé ça pour faire autre chose. J'aurais peut-être créé d'autres trucs. Depuis, par contre, ce qui est certain, c'est que ça m'a donné une vraie confiance en moi. Ça m'a vraiment boostée. Mais du coup, j'essaye plus de trucs. J'ai essayé la sculpture. J'ai essayé plein de sports différents. Des choses où je me disais avant, mais non, tu restes un peu dans ta zone de confort, tout ça. Et non, en fait, je pense qu'il faut vraiment... Ce que je dirais à la Émilie de 2016, c'est sors de ta zone de confort, bouge-toi le cul et tu vas voir, ça va être chouette. Et c'est ce que je dirais à tout le monde. Ce que je dis à mes enfants tous les jours quasiment, depuis.
Quand j'ai besoin d'aide, je te vois. Au moins c'est peut-être ce qui m'échappe. J'aimerais pouvoir t'aimer sans mal. Ou j'aimerais peut-être juste que tu me regardes.
Tu me regardes d'Angèle a aussi été choisi par Émilie. C'est tout simplement sa chanson préférée. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Fruits de la Passion. Il a été réalisé par Mathilde Largeteau, le générique est de Florian Ricci, l'habillage sonore et le mixage de Thomas Juvet et l'illustration de Laura Zuliani. Vous avez aimé cette histoire et vous souhaitez nous contacter ou contacter son narrateur ? N'hésitez pas à nous écrire sur bonjour@passion.audio. Nous sommes aussi présents sur Instagram, Facebook, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Tapez simplement « Fruits de la passion ».